Robert Blondin, ici. Bienvenue à l'aventure. Avec nous aujourd'hui, I.L. Ce sont des initiales, mais c'est aussi un pseudonyme parce que vous écrivez.
Oui.
Puis pas n'importe quoi.
Je fais un petit peu de littérature érotique. Un petit peu beaucoup même.
c'est quoi le beaucoup?
Beaucoup, ça fait presque, je dirais, 16-17 ans que j'écris sous différents pseudonymes. Des pseudonymes masculins, féminins. Puis là, j'ai décidé de m'arrêter et de m'appeler IL.
Quand on publie de la littérature érotique, on publie où, comment, avec un éditeur, des éditeurs?
Oui, avec des éditeurs. Avant, ça se passait dans, surtout... moi, j'ai beaucoup travaillé en Europe, donc j'envoyais mes textes en Europe. Et ensuite, c'était diffusé dans des recueils. J'écris beaucoup de nouvelles. J'écris un ou deux romans, mais... surtout beaucoup de nouvelles.
Mais toujours à saveur érotique.
Oui.
Pourquoi?
Mais ça, j'ai commencé par d'abord écrire des petites histoires courtes et des poèmes, beaucoup de poèmes. Et j'étais invitée dans des salons de poésie, des festivals de poésie, où j'allais sous mon nom. Et un jour, un éditeur m'a dit « Ah, il y a comme justement une petite saveur un petit peu érotique dans ce que vous faites. Est-ce que vous avez d'autres textes qui poussent un petit peu plus loin ?» Et j'avais commencé un petit peu ici ou là, mais sans vraiment m'y porter attention. Mais j'ai toujours été intéressée par la sensualité, surtout l'équité, l'égalité homme-femme quand venait le temps de l'amour. Ça, c'était mon côté féministe qui était déjà là, très très, qui était naissant, mais qui s'est prononcé avec le temps. Et puis il m'a proposé d'écrire. Si je te donne un thème, est-ce que tu pourrais écrire? Je sais pas, 10 000 mots, nouvelles, peu importe. Alors j'ai écrit. Et il m'a un petit peu guidée en me disant un petit peu plus comme ci, un petit peu plus comme ça. Ouais. Des personnages, décrire les personnages, décrire les actions. Parce que c'est toute une technique d'écrire des histoires érotiques. Parce que c'est pas juste des histoires d'amour.
Vous parlez de technique, mais écrire, c'est écrire. Mais c'est quoi? C'est la structure qui est différente?
Oui, tout à fait. En fait, c'est la mise en contexte qui est intéressante. C'est la mise en contexte, c'est commencer à raconter une histoire, décrire des personnages, décrire leur intensité, le pourquoi ils veulent le faire. Parce que écrire une histoire, ce que j'aime, c'est l'érotisme, ce n'est pas la pornographie. J'en ai fait aussi un petit peu. J'ai écrit quand on m'a demandé de remplir des pages pour certains magazines. Je l'ai fait pour m'amuser, mais en même temps, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la particularité de vivre sa vie dans un érotisme constant. Donc, mes personnages sont un petit peu comme ça. Et ce que je veux, surtout, c'est pouvoir exprimer le désir, aller jusqu'au plaisir, mais le décrire de façon complètement naturelle. Donc, ce qui est difficile, c'est la structure, oui. Parce qu'il faut cette mise en contexte. Ne pas révéler tout de suite ce qui va se passer.
C'est ce que j'allais dire. Il faut étirer un peu les choses.
Il faut étirer. Il faut expliquer pourquoi on étire aussi. Parce que s'étirer pour étirer, c'est du descriptif. Mais, et puis, ça ne fait pas avancer l'histoire. Et au bout d'un moment, on se lasse. Donc, il faut que dans le descriptif que l'on amène, on ait des éléments d'histoire ou des éléments de développement d'un personnage qui va faire en sorte qu'on va comprendre pourquoi il est là, pourquoi à la fin l'orgasme va se passer de telle ou telle manière, parce que les personnages sont complexes.
Est-ce qu'il y a des types de personnages qui sont plus érotiques que d'autres?
Ah, je pense que l'érotisme est dans tout. Toutes sortes de personnages. Il n'y a pas d'âge, Non. Pour moi, tout peut être érotique.
C'est quoi la différence entre la pornographie et l'érotisme? Vous avez dû réfléchir longtemps à ça, vous.
Ah oui, tout à fait. Mais en fait, la ligne est mince entre les deux. Puis le point commun, c'est l'orgasme. Donc comment arriver à un orgasme, quel qu'il soit, sans dépasser vulgaire, mais en même temps, l'amour, c'est vulgaire. Il faut qu'il y ait un petit peu de vulgarité, il y a un peu de cru, un petit peu de sincérité et dans les mots, dans les actes, dans les gestes. Donc ça, c'est normal. Mais la pornographie se limite peut-être à la jouissance de l'un sans l'autre.
Sans l'autre.
Ouais.
Donc ça serait peut-être... Ça devient très mécanique, alors.
Ça devient très mécanique, et puis on n'est pas dans une attente, on n'est pas dans un partage, on est saisir son plaisir sans trop penser à l'autre. Alors que dans l'érotisme, c'en est ma vision, dans l'érotisme, c'est un partage. Même si... j'ai écrit un texte il n'y a pas très longtemps qui dit... ils sont unis, mais en même temps, ils sont unis, mais ils vont se regarder dans les yeux sur le souffle de leur rythme. C'est-à-dire que chacun va quand même aller chercher son plaisir en se servant de l'autre. On est obligé.
Est-ce que j'ai entendu déjà, ou lu, je pense bien, une définition entre les deux, en disant que la pornographie, c'est de privilégier la partie sur le tout.
C'est vrai. C'est juste aussi.
C'est un petit peu ça.
Oui, tout à fait.
Ça devient une mécanique.
C'est une mécanique, c'est une chose. Et puis c'est une cible que l'on se donne. On se dit, bon, ben, à ce moment-là, c'est cela qu'on veut. Alors que l'érotisme, pour moi, c'est l'histoire, c'est la vie, c'est le personnage qui s'exprime, qui va s'exprimer, qui va exprimer des facettes de sa personnalité.
C'est ce qui mène à la rencontre, finalement. Ce que vous écrivez beaucoup, c'est ce qui nous mène à cette rencontre qui va aller jusqu'au bout.
Exactement, oui. Oui, c'est ça.
Où vous avez pris toutes vos expériences sexuelles pour... Vous connaissez toutes les pratiques sexuelles, toutes les préférences et tout. Vous avez beaucoup lu ou vous avez beaucoup baisé?
C'est ça. Mais souvent, on me pose la question. Et en fait, ce que j'explique, c'est que si je passais ma vie à baiser, je n'aurais plus le temps d'écrire. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'organise des soirées de conversation. J'appelle ça des... je le mets un petit peu... J'organise des soirées où j'invite des femmes à me raconter. Puis j'ai des soirées où j'invite des hommes à me raconter. Et j'ai des amis qui savent que je suis toujours très friande d'avoir un petit peu des nouvelles. Donc je suis quelqu'un qui écoute beaucoup.
Un peu voyeuse aussi.
Un petit peu voyeuse aussi, parce que bon, il faut écrire, c'est sûr. Mais vous savez, quand vous avez un éditeur qui vous appelle, qui vous dit, il nous faut à peu près, je sais pas, une vingtaine de pages pour dans 2 semaines. On n'a plus vraiment le temps d'être voyeur. On a plutôt le besoin d'être structuré, d'être efficace, de trouver. Et puis quand on écrit beaucoup, ça devient comme une gymnastique. On est équipé, on sait ce qu'il faut faire, on est musclé, on est prêt.
Mais où vous prenez votre inventaire de pratiques sexuelles, de gestes, d'approches?
Des fois, c'est juste une photo. Des fois, c'est juste un oiseau qui s'envole sur le bord de la mer et puis boum, je pense à des idées. Je ne suis pas une fan de porno, je regarde très rarement, je dirais même jamais. Ça ne m'a jamais intéressée. J'ai peut-être eu, au niveau personnel, la chance d'avoir des gens qui m'ont aimée et qui m'ont compris, donc j'ai pu m'exprimer. Mais au-delà de ça, quand on est auteur, on ne peut pas toujours se baser sur nos expériences personnelles. Ce n'est pas possible, ça. Il faut qu'on rêve, il faut qu'on parte ailleurs, il faut qu'on soit inspiré par d'autres. Il y a des femmes qui me racontent leurs histoires, et puis, en fait, c'est très, très simple. Je les écoute et j'écris.
Mais puisque vous écrivez tant là-dessus, est-ce que ça veut dire que vous avez, vous, une sexualité particulièrement débordante, débridée?
C'est ce que les gens...
Ou si toute votre sexualité est dans les mots?
Mais c'est ça qui est terrible. Grand parleur, petit faiseur.
Oui, c'est ce que j'appliquais, oui.
C'est ça. En fait, on n'a pas le... Ça m'intéresse parce que c'est un sujet qui est fort et puis qui... dans le couple hétérosexuel, il y a beaucoup de choses à discuter dans les méthodes justement de l'amour et dans l'érotisme aussi. Donc ça m'a intéressée. Mais moi, mes pratiques à moi, elles ne sont pas plus compliqué que les pratiques de qui que ce soit, de tous les auditeurs qui nous écoutent peut-être.
Et dans, dans vos écrits, vous touchez aussi aux amours homosexuels?
Au début, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que c'est sûr qu'au début, quand on est auteur, mais là, je vous parle ça de 16-17 ans, on essaie de s'exprimer avec ce que l'on sait, avec ce qu'on connaît. Mais après ça, une fois que c'est fait, une fois c'est extériorisé, une fois c'est exprimé, là, il faut s'intéresser au reste. Puis j'ai des amis qui m'ont raconté leur... oui, alors j'écris sur l'homosexualité, les rapports humains d'hommes entre hommes, de femmes entre femmes.
Est-ce qu'il y a en sexualité autant de variétés qu'on le croirait? Ou si ça se ressemble pas mal tout?
Mais écoutez, moi, je pense qu'à la fin, quand on va vers l'érotisme, c'est qu'on est romantique. Donc il y a toujours... et puis après, on aime. Peu importe le sexe. Peu importe les sexes.
C'est pas la mécanique ou la plomberie de la sexualité qui fait la différence, finalement, c'est la rencontre.
Parce que c'est la rencontre. Je pense qu'il y a des... les gens me disent toujours, ah, j'ai eu un coup de foudre, une chimie. Dès que je l'ai vu, je suis tombée. Et moi, j'y crois au coup de foudre. Je pense que... Et puis, je pense qu'en tant qu'auteur, il faut y croire, il faut pouvoir fermer les yeux puis imaginer que ça peut arriver.
Autant d'années à écrire là-dessus, là.
Moi, j'ai pas fait que ça quand même,
Non, j'espère pour vous. Est-ce que ça devient pas un peu répétitif?
Mais vous savez, quand on écrit, quand on entend du Charles Aznavour, quand on entend du Barbara, quand on entend... toutes ces belles chansons qui ont été écrites par ces grands auteurs, est-ce qu'on se dit j'arrête d'écrire une chanson d'amour parce que tout a déjà été dit? Je pense pas. Je pense que, comme vous le dites, chaque rencontre est unique et chaque personnage que l'on invente ou que l'on rencontre, qu'on va imaginer, aura son histoire. Et toutes les histoires sont importantes.
Est-ce qu'on gagne plus facilement sa vie comme auteur d'érotisme que d'auteur tout court?
Je ne sais pas. Moi, je la gagne bien. Depuis de nombreuses années, j'ai fait ça, mais je fais aussi d'autres projets qui m'intéressent aussi au niveau, à toutes sortes de niveaux, au niveau des spectacles, au niveau du film, au niveau de
dites-moi un peu, qu'est-ce que vous faites d'autre?
Oh, ben, c'est ça, j'écris des chansons, j'écris des scénarios, j'écris...
Des chansons, vous les chantez?
Des chansons que j'ai pu chanter, des chansons aussi que d'autres chantent. Donc, en fait, ça a commencé un petit peu comme ça, à écrire des poèmes, écrire du théâtre, et ensuite, la prose est arrivée. Mais, et puis, je pense que ce qui m'a aidé à écrire aussi beaucoup de textes érotiques, c'est que je ne suis pas partie dans le grand porno. Je suis partie vraiment dans des idées beaucoup plus poétiques, beaucoup plus douces, plus rythmées, comme je fais de la musique. Je pense que c'était plus simple d'écrire des choses... aller chercher des sonorités qui se ramenaient, qui se rapprochaient. Donc, quand on parle de rythmique dans le texte.
Comment réagissent vous me corrigerez s'il le faut, vos partenaires sexuels à votre spécialité d'écriture érotique?
Mais ils ne le savent pas.
Ils ne le savent pas?
Non. Je dis rien.
Ben voyons donc.
Ben oui, on n'est pas obligé de tout dire. Chacun son jardin secret. De toute façon, moi, j'en ai pas tellement des partenaires parce que j'ai été mariée pendant très, 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 très longtemps. Et donc, j'ai été satisfaite comme ça. Donc, j'avais pas besoin d'aller chercher midi à 14h ou d'aller chercher midi ou minuit.
Et vous avez commencé ça très jeune, la littérature érotique?
Ah, pas si jeune que ça. Mais quand j'ai commencé à développer mon écriture, c'est arrivé un petit peu par hasard. Mais en même temps, je me suis dit pourquoi pas aller un petit peu plus loin.
Est-ce que certains textes que vous avez écrits comme ça, vous en êtes particulièrement fier?
Ben, je pense que comme tout auteur, quand il y a des bonnes, quand on fait des bons coups, quand on a des bonnes phrases, on est content. Donc peu importe ce qu'on écrive. Hein.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez écrites que vous regrettez alors?
Non, moi je suis pas comme ça. Moi je ne regrette rien, sans remords et sans regrets. Ça c'est ma. Non, on peut pas regretter. La vie est trop courte. Donc non, je ne regrette pas, mais je me dis j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire autrement. Mais on fait avec ce qu'on sait au moment où on le fait. Je veux dire, ça a l'air banal et con ce que je viens de dire, mais en même temps c'est vrai. On ne peut pas aller plus loin, puis on ne peut pas se reprocher de ne pas être ce qu'on aurait dû être, parce qu'on ne le sait pas. Donc, il faut avoir une espèce de philosophie peut-être un peu fataliste. Puis, en tant qu'auteur, c'est très difficile parce qu'on ne se sent jamais légitime. On pense toujours qu'on peut faire mieux. On sait qu'il y a d'autres plumes qui sont meilleures que les vôtres. Je veux dire, le milieu de la littérature est très dur, je trouve. Il est très... un petit peu snob aussi, parce qu'il faut écrire d'une certaine manière, etc. Puis quand on dit qu'on fait de la littérature érotique, souvent on est regardé un petit peu de « oh ben, pff, c'est de la littérature érotique ». Ouais, ben, en tous les cas, Guy de Maupassant faisait de la littérature érotique, Harry Miller faisait de la littérature érotique, et c'est des gens qui savaient aussi écrire. Mais non, je ne regrette pas, je ne regrette pas.
Vous n'avez pas le goût de tomber ailleurs, c'est-à-dire d'écrire du roman, de l'essai, je ne sais pas, de l'essai, le monde de l'érotisme quand même un peu, non?
Oui, ça j'en ai fait, puis j'en ferai encore, et puis je scénarise pour des films, j'arrive à exprimer. Ce qui est important pour moi, ce que je me suis toujours dit, c'est qu'en tant qu'artiste, je ne voulais pas rester, comment dire, avec des regrets. C'est-à-dire, je voulais pas rester en attente. C'est-à-dire que je veux faire ce que j'ai envie de faire et je veux m'exprimer, quel que soit le médium. Donc,
le fait d'écrire de l'érotisme comme ça, ça vous a apporté aussi des ennuis?
Mais c'est pour ça que je reste un petit peu anonyme, c'est plus simple.
Parce que vous seriez susceptible d'être gêné de quelque façon que ce soit?
Non, moi je ne suis pas gênée, mais je veux dire, il y a des gens qui vont fantasmer, comme surtout. Puis quand c'est une femme, c'est pour ça que souvent... D'abord, on a souvent écrit, au début quand j'ai commencé, j'écrivais avec des pseudonymes d'hommes, parce que les femmes qui lisent, ça c'est très intéressant en fait, les femmes qui lisent, je veux dire, 80% des gens qui lisent la littérature érotique, je vais reprendre mes mots, ce sont des femmes. Donc, quand les femmes lisent, elles veulent, et puis qu'elles sont hétérosexuelles, elles veulent imaginer que c'est un homme qui a écrit pour elles. Donc, on me disait, il faut écrire avec un nom d'homme. Et il était vrai que quand je signais mes textes avec un nom d'homme, ben ça marchait plus. Et puis même moi, j'essayais de me mettre un petit peu dans un contexte plus masculin. Puis j'écrivais vraiment comme si c'était un homme qui l'avait fait. Enfin, j'essayais tout au moins. Donc là, il y avait ce côté-là. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, ça me sortait un petit peu de mon moi. Et puis je me mettais dans un personnage d'auteur qui n'existait pas, en train d'inventer des personnages complètement irréels sur une feuille de papier qui devait ultimement faire l'amour. Je veux dire, c'était quelques challenges qui étaient toutefois intéressants. Donc, je ne sais plus quelle était votre question, mais bon.
On va passer à une autre, alors.
Allez, on y va.
Je me trompe en disant que les hommes en érotisme ou même en pornographie sont plus portés à regarder des images et des femmes à lire là-dessus?
Oui. Je pense que, de toute façon, l'histoire de l'érotisme, de la littérature érotique, elle est intéressante parce que, bon, les hommes pouvaient sortir, les hommes pouvaient partir, s'amuser. Dans des endroits qui étaient pour eux. Ils allaient dans des pubs, ils allaient dans des bordels, ils allaient entre copains, puis ça se fait encore. Hein. Alors que la femme, elle, était un peu coincée à la maison, puis elle est encore beaucoup coincée à la maison. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de femmes qui sont sur les sites internet et puis qui font leur truc, qui font leur bazar. En revanche, il y a des années et des années, ces femmes-là, elles étaient à la maison et la seule façon de s'évader, c'était de lire. Alors lire des poèmes, des romans, des nouvelles, des essais, du théâtre, et puis aussi la littérature érotique. Et je pense que c'est comme ça, c'est pour ça que les femmes lisent plus que les hommes aussi. Puis il y a une chose aussi, c'est que la femme a besoin de... En tous les cas, je ne suis pas une spécialiste, mais pour avoir parlé à de nombreuses femmes dans ma vie, et qui me posent des questions, j'ai des amis qui m'appellent pour des conseils, je trouve ça toujours très rigolo, et puis ça me fait plaisir de leur en donner... La femme se questionne beaucoup plus que l'homme. Elle a besoin de plus de romance. Elle a besoin de pouvoir, comme je disais un petit peu plus tôt, fermer les yeux et partir ailleurs. Alors que l'homme, il est un peu plus pragmatique. Donc, mais il y a des hommes que j'ai rencontrés qui sont extrêmement amoureux, qui sont encore plus romantiques qu'une femme et qui ont besoin, qui ne peuvent pas bander, qui ne peuvent pas faire l'amour s'ils ne sont pas complètement amoureux. Et quand des fois je dis ça, les gens me disent « Non, mais c'est pas vrai ». J'ai dit « Oui ». C'est vrai, il y a des hommes qui ne peuvent pas faire l'amour s'ils ne sont pas amoureux. Et comme les femmes, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à se donner, à souffrir, si elles ne sont pas amoureuses de l'homme avec qui elles sont. Donc, c'est vraiment c'est une distinction entre les hommes et les femmes à ce niveau-là. Et quand on est auteur et qu'on vous dit, ben, si tu signes par un nom d'homme, les femmes vont être beaucoup plus attirées. Puis si tu signes par un nom de femme, il y a d'autres femmes qui vont être attirées. Peut-être les hommes vont vouloir un peu comprendre ce qui se passe. Donc, je me suis beaucoup amusée avec ça.
Vous êtes installée au Québec, c'est depuis longtemps?
Non, alors ça, c'est nouveau. Je suis au Québec depuis 3 ans.
Et pourquoi?
J'étais à l'avance sur la côte ouest, du côté de Vancouver. Et puis, bon, ben, je dirais que, pour faire simple, le vent a poussé. En fait, moi, je suis d'origine européenne, j'étais en France. Le vent a poussé de ce côté-là. Je me suis arrêtée un tout petit peu à Montréal. Ensuite, je suis partie sur la côte ouest pour revenir goûter au plaisir de l'hiver.
Mais pourquoi vous vouliez goûter au plaisir de l'hiver? Pourquoi vous avez quitté l'Europe d'abord, la France?
La France, il fallait la quitter parce que j'avais des envies de voyage, j'avais envie de partir, j'avais lu que les terrains étaient, la terre était plus vaste ici et que des idées aussi, j'avais envie de découvrir.
Parlez-moi un peu de votre enfance. Vous avez grandi dans une grande famille, en ville, à la campagne?
J'ai grandi en ville, dans des appartements. Et après, quand il a fallu même que je vive dans des maisons, ça ne me plaisait pas. Quand il a fallu que je m'achète une maison, parce que mon mari me disait il faut acheter une maison, j'avais pas envie, j'avais peur d'être toute seule dans une maison avec avec des portes à gauche, à droite, des vents derrière, des fenêtres, des patios. J'ai été habituée à vivre dans la ville, à aimer le son d'une ville, à aimer l'odeur des ordures du matin. Je viens du sud de la France, donc de la Méditerranée. Donc j'avais besoin d'avoir ce parfum un petit peu dur, acide, qui nous réveille le matin, de la ville, le bruit. J'aime le bruit. J'aime savoir qu'il y a du monde autour de moi. J'aime pas tellement être seule. Et pourtant, tout ce que je fais, c'est souvent seul. Mais après, j'ai besoin de partager. Après, il faut le partage. Donc oui, j'ai vécu dans une famille avec de 3 enfants. Et donc un frère et une sœur.
Vous étiez la plus jeune, la plus vieille?
J'étais au milieu.
Au milieu.
La Benjamine, oui.
Ça s'est bien passé?
Très, très bien. Belle relation avec ma famille. Ma mère est ma meilleure amie. Ben, d'ailleurs, ma mère, c'est rigolo parce que quand j'ai commencé à lui dire que je faisais de la littérature érotique, je crois que c'est mon premier texte que je lui ai lu. On veut toujours l'approbation de ses parents. Hein.
On veut être adoubé. Non?
Tout à fait. Alors donc, c'est ma mère qui a été. Et puis, elle me dit, t'es sûre de vouloir faire ça? Je dis oui. J'ai dit, je vais essayer. Puis, on va voir si je fais des sous. Et puis après, bon, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, j'ai fait d'autres choses aussi. Mais non, c'est ça. Ma mère est au courant.
Quelle sorte d'études vous avez faites?
J'ai fait des études en littérature, justement.
Comme par hasard?
Oui. Littérature et langue. J'aimais bien... J'ai appris un petit peu d'espagnol, un petit peu d'italien. Et c'est fou parce que j'avais appris l'anglais, mais l'anglais à l'école ne valait rien. Brian, blablabla. Bla, bla. Donc, c'est vraiment en étant au Canada, sur la côte ouest, que je me suis mise à l'anglais. Et puis là, je peux écrire en anglais maintenant. Je dirais bilingue, toujours un petit accent français. Mais j'ai appris à travailler en anglais beaucoup. Et... Mais c'est quand même en français que je me sens le mieux.
Est-ce qu'il y a des lectures qui vous ont marqué plus jeune?
Je suis une fan du 19e siècle. Donc,
on est plusieurs.
C'est ça, je sais que c'est large. Non, mais moi, j'aime Victor Hugo. Je suis allée visiter la maison de Victor Hugo et puis j'ai été fascinée.
Place des Vosges.
Fascinée. Et je ne sais pas, c'est des auteurs comme ça, j'aime leur poésie, j'aime Baudelaire, enfin, c'est très cliché, hein, mais c'est ça. Et puis surtout, ce que j'ai eu surtout, c'est un professeur de français qui nous avait... moi, j'étais toujours... j'étais mauvaise en maths, j'étais bonne dans les langues, mais surtout, ce que je voulais, c'était c'était sortir, faire du théâtre, c'était pas dans la classe. Et elle a su nous accrocher avec des textes tout simples, nous faire comprendre ce qu'était la... Mais elle a partagé son amour de la littérature. Et vraiment, ça m'a touchée. Et c'est fou parce que j'arrive plus à me souvenir du nom de ce professeur, mais pendant des années, je l'avais dans la tête, comme c'est important. Hein. l'impact que les adultes ont sur les enfants et sur les jeunes. Parce qu'elle a certainement changé ma vie, quoi. Parce qu'après, je me suis vraiment... J'ai dit, OK. Et puis quand j'ai quitté, j'ai fait des études, je suis à l'université, mais j'ai pas duré longtemps. Ça me saoulait d'être dans les grands amphithéâtres, tout ça, je suis pas restée. Et je suis arrivée ensuite au Canada. Et au Canada, je me suis dit, là, il faut que je me cultive plus. Puis j'ai fait j'allais chez les bouquinistes et je m'achetais des livres. Et j'ai relu du Camus, je me suis remis dans les classiques, et puis dans du contemporain, j'ai lu beaucoup, toute seule.
Quand on écrit de la littérature érotique, c'est pas uniquement ce que vous faites, mais vous l'avez fait et vous le faites encore beaucoup, comment votre initiation à vous en sexualité s'est faite de façon particulière, marquante ou...
Moi, ça s'est très bien passé.
Ça veut dire quoi, ça?
Ben, ça s'est très bien passé, puis... Vous savez, chacun a son histoire. Il y a des histoires qui sont très marquantes, justement, comme vous le dites, pour les gens qui débutent leur sexualité, puis comment ça va influencer toute leur vie après ça. Moi, j'ai eu de la chance. Moi, ça s'est bien passé. Et quand j'étais amoureuse, j'avais l'amour en retour. Moi, j'ai la chance d'être une femme assez épanouie parce que peut-être j'ai eu cette chance. Mais en même temps, on choisit les gens avec qui on a envie d'être. Et puis, j'ai eu de la chance, tout simplement. J'ai pas été...
Dans le milieu méditerranéen, vous avez connu vos adolescences et vos premiers amours. C'est pas toujours un milieu évident pour choisir ses partenaires. C'est parfois des milieux assez durs, assez difficiles.
Parce que les hommes sont machos.
Oui, c'est ça que je veux dire.
C'est ça que vous voulez dire, hein? Oui, mais plus ils sont machos, plus ils sont romantiques. C'est qu'on les connaît pas.
Alors là, vous allez me développer ça là-dessus, là.
Non, mais... Les gens du Sud sont des gens qui sont passionnés. Et c'est sûr qu'il y a des clichés, des stéréotypes des gros machos qui remettent leur femme en place. Mais si la femme sait, elle, se défendre un petit peu, après, tout va bien.
Mais vous n'avez jamais été déçue? Une peine d'amour, vous avez connu?
Ah, bien sûr que j'ai eu des peines d'amour, heureusement. Ben oui, mais c'est ça qui forge la personnalité et c'est ça qui forge ce que nous sommes. C'est avoir des personnes, bien sûr qu'il en faut. Moi, à un moment donné dans ma vie, puis un des personnages le dit très bien, je dis, tomber amoureux, chaque train qui passait, on tourne la tête, on tombe amoureux. Mais c'est ça la passion, c'est ça, il faut la vivre. Mais bien sûr que je suis tombée amoureuse, et bien sûr que j'ai eu des peines d'amour.
Quelle sorte de valeur vos parents vous ont transmis, vu que ça se passait bien à la maison?
Le respect. Le respect de soi, le respect de l'autre. Et quand on est jeune et qu'on a ce genre d'éducation, on est en fait, à chaque fois qu'on veut faire une bêtise, on ferme les yeux et boum, on a l'image de sa mère ou de ses parents qui revient. Et on se dit, au lieu d'aller si loin, je vais juste m'arrêter là. En fait, l'éducation, une bonne éducation, c'est dire à ses enfants, voilà, tu as tous les outils, souviens-toi et à toi de te guider toi-même. Mais et ça, je pense que c'est un... Moi, je dis, ma mère, c'est mon héros, parce que sans jamais hausser le ton, sans jamais laisser passer une baffe, comme je sais que ça pouvait se faire, ma mère nous a toujours expliqué ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, mais elle nous a toujours laissé prendre la décision. Et ça, je pense que c'est ce qui se passe aussi quand j'écris dans mes personnages. Je laisse mes personnages... Je leur dis ce qu'ils... Disons que je les... Je ne les formate pas. Je les laisse, je les écris comme je pense les écrire. Ensuite, c'est eux qui continuent leur histoire. Et j'essaie de faire ça dans mon écriture, pour qu'eux puissent être guidés et se guider.
Est-ce que l'amitié a été aussi importante que vos amours?
Ah, moi, je suis fidèle. Je suis fidèle en amitié, je suis fidèle dans ce que j'aime. J'ai des goûts qui sont très, très, très précis. Et mes amis sont, oui, tout à fait. Mes amis sont très, très importants. Et ils le savent.
Et ce ils sont des amitiés qui durent.
J'ai des gens qui sont avec moi depuis 25, 30 ans. Et vous voyez, j'ai un ami du sud de la France qui est en voyage. Je pense que lui, ça fait 32 ans qu'on se connaît. Et il vient me voir.
Et vous avez été trahi par des amitiés?
Ah, comme tout le monde, bien sûr. Mais ça fait mal. Peut-être que ça fait encore plus mal que l'amour. C'est ce qu'on peut dire. Oui, parce que de l'amour, on attend... en fait, de l'amour, je ne sais pas ce qu'on attend. on attend quelque chose d'inconditionnel de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors qu'un ami, il nous connaît. Donc s'il nous trahit, c'est pire. Et c'est fou parce qu'avec un ami, on ne fait pas l'amour. Mais pourtant, ça peut être encore plus fort qu'une relation amoureuse avec un homme ou avec une femme. Non? Qu'en pensez-vous?
Moi, j'en suis convaincu depuis longtemps.
C'est vrai?
Ça, c'est sûr. Ça fait plus mal qu'une peine d'amour.
Ça fait plus mal qu'une peine d'amour. Tout à fait.
Absolument. Quand votre adaptation au contexte nord-américain, ça a été difficile ou pas?
Très difficile. Très difficile parce que, justement, il y a des valeurs... Quand on arrive au Québec, on se dit « Oh, il parle français, on est francophone, ça va. » Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir.
Pas du tout.
Surtout quand on est marseillaise. Quand on est marseillaise, quand on est du Sud, c'est terrible parce qu'on a des éclats, on a des pulsions, on a des coups de tonnerre, des moments de tempête. Mais après, ça passe. Donc ça, c'est ça. Déjà, il y a ça.
Et ici, les tempêtes, on les garde sous le couvert un peu.
Et voilà, ici, on dit rien, on encaisse. Puis d'un coup, ça sort d'une façon surprenante. Parce qu'on se dit, ah, comment ça se fait qu'elle s'énerve, qui s'énerve? Parce qu'il n'a rien dit jusqu'à présent. Et donc, on est surpris. Et puis aussi, cette relation aussi avec les autres. Moi, je me souviens, j'avais rencontré un garçon qui m'avait présenté très rapidement à ses parents. Et j'avais été bouleversée. Je voulais pas y aller parce que je me suis dit, oh, mais je l'aime pas lui. Qu'est-ce qu'il va me présenter à son père et à sa mère? Ça va pas, non? Et puis finalement, il m'avait présenté. Et puis son père avait dit, ah, il avait donné le nom d'un prénom d'une fille, une Nathalie, peu importe. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, c'était normal d'amener une copine, même la plus récente, chez ses parents. C'était monnaie courante. Alors que moi, je peux vous dire une chose, quand ma mère elle a rencontré mon ami, c'était qu'il allait devenir mon mari.
Et pas autrement.
Et pas autrement. Elle n'a jamais su, elle n'en a jamais vu d'autre. Encore aujourd'hui.
Est-ce que c'est la seule adaptation difficile que vous avez eue à faire ici?
Non, mais ça, ça a été quand même fort parce que ça, c'était une valeur qui allait plus loin que
vous
juste...
Vous ne pouvez pas être aussi spontané que qu'on l'est dans le sud de la France, par exemple. Il faut calculer un petit peu ces éclats.
Mais écoutez, moi, j'ai toujours été très spontané, tout ça. Je sais que ça a brusqué beaucoup. Et puis ensuite, quand on est allé sur la côte ouest, je ne vous raconte même pas quand on travaille avec des anglophones. Ça, c'est encore un autre univers. Donc, on se dilue un petit peu. On est obligé de
s'adapter. On reproche souvent aux Français qui arrivent chez nous, ici au Québec, une attitude encore un peu néocolonialiste. Vous avez ressenti ce genre de commentaires? Vous l'avez ressenti en vous? Une espèce de supériorité? Mon vocabulaire, ma langue est meilleure, j'ai plus de connaissances. On connaît ce genre de choses.
Oui,
ici.
Mais moi, je pense que je suis arrivée quand même assez jeune ici, puis...
Vous êtes arrivé à quel âge ici?
Je ne parle pas d'âge parce qu'il faut...
Vous n'avez pas d'âge, vous?
Oui, c'est intemporel.
Pas d'âge, pas de nom, pas rien.
Non, c'est ça. Okay. C'est ça. Pour ça, quand je mourrai, eh bien, j'irai jusqu'aux étoiles et puis c'est tout. En revanche, je vais être bouffée par les vers. C'est marrant, hein? On va la tête dans les nuages, mais les pieds bien sur terre. Non, c'est ça. Je pense que peut-être parce que j'étais dans le milieu artistique, ça s'est peut-être bien passé aussi. Et puis comme j'ai fait toute ma carrière ici en Amérique du Nord, j'ai pas senti trop de différence.
Est-ce qu'on fait l'amour avec un Nord-Américain de façon différente qu'avec un Européen?
Écoutez, ça, c'est une bonne question parce que on dit que les meilleurs amants sont des Français ou des Italiens. Après, il faut essayer de... S'il faut faire un test, ça veut dire qu'il faut baiser avec toutes les nationalités. J'ai pas fait. Alors, je peux pas vous répondre. Mais c'est sûr qu'il y a une... Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que la passion est universelle. Hein. Quand on est passionné, Après, être... partager ses émotions, ça, c'est une chose. Donc, c'est vrai que certainement, ça se fait un petit peu autrement. Ça se fait moins rapidement ou ça se fait plus... Oui, non, c'est vrai que c'est certain qu'il y a des différences.
Je vais poser ma question différemment. Allez. On va essayer de vous tasser quand même dans le coin pour le savoir. Est-ce qu'il y a des qualités chez le Québécois, par exemple, qu'on retrouve plus facilement chez le Québécois que chez un sud-est de la France?
Mais vous parlez de quoi, là? De l'amour?
De l'amour ou de la qualité amicale ou de simplement la communication avec un Québécois? Est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a des qualités chez le Québécois qu'on retrouve moins facilement dans le sud de la France?
Écoutez, je pense que toutes les sociétés, tout le monde est différent, mais en même temps, non, je ne sais pas. Moi, j'ai des amis d'ici, des amis de là-bas et... Je pense que quand on est sincère, quand on est honnête là, les uns avec les autres et qu'il y a une complicité, peu importe d'où on vient. Mais une chose est sûre, c'est que la langue fait la différence. C'est surtout ça. Je pense que quand on a une vie avec quelqu'un qui... Ça, c'est une chose que je reviens à ma mère, vous voyez, j'en parle beaucoup. Elle m'avait dit, fais attention, déjà... Vivre à deux, c'est difficile. Quand en plus, ils ne parlent pas ta langue, c'est encore plus compliqué. Quand il faudra s'engueuler, dans quelle langue t'engueuleras-tu? Et là, je pense que c'est encore vrai pour tout. Et en amitié aussi, c'est ça. Hein, dans les rencontres, on est enraciné, qu'on le veuille ou non. Alors, c'est vrai qu'il y a des différences.
On peut s'engueuler, c'est quand on est française d'origine avec un Québécois avec son accent?
Oui, et puis il y en a toujours un qui prend plus que l'autre.
Hein. Ouais. Est-ce que vous suivez d'assez près la vie culturelle ici?
J'essaie, oui.
Vous avez des préférences? Ou...
Oh, je n'ai pas de préférence, mais ce que je trouve fantastique, c'est le choix qu'il y a. Et en fait, au Québec, plus qu'ailleurs même, on a une... Et c'est peut-être la proximité de l'Amérique du Nord, c'est peut-être aussi les racines latines. En fait, on a un choix de théâtre qui est extraordinaire, de cinéma. Moi, je travaille avec des gens qui sont de la scène et de l'écran. Et une compréhension du médium et du... du partage au public qui est assez fantastique ici. Il y a de grands créateurs ici au Québec. Il y en a partout, mais ici, plus particulièrement, qui ont une dextérité, une compréhension, une façon d'exprimer leur art qui est assez magnifique.
Il y a beaucoup d'innovateurs. Une plus grande proximité avec les gens du peuple aussi, parce que quand je pense à certains créateurs européens, ils sont assez éloignés parfois du peuple.
Vous avez raison. Il y a pas le... Ça, c'est très juste. Il n'y a pas de hiérarchie ici. Ici, on peut parler à qui on veut, quand on veut, puis les gens sont à l'écoute et c'est pas parce que c'est une personne qui est plus âgée ou qui a une carrière beaucoup plus avancée qui ne va pas se tournera pas en disant comment je peux aider ou comment je peux comprendre le public. Alors que c'est vrai qu'en Europe, je trouve, et c'est pour ça que j'ai quitté l'Europe, même très jeune, sans vraiment comprendre pourquoi, mais quand j'y retourne, je le dis toujours, je dis regarde encore dans le rétroviseur. N'a pas encore assez avancé. Et donc, il y a toujours ce côté très lourd de hiérarchie, de
clientèle, hein, à sens vieux du terme. Là,
ouais. Oui, tout à fait. Et ça, c'est fatigant. Alors qu'ici, c'est créer pour créer. On réfléchit moins dans le sens, et puis ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est qu'on a une idée et on va la lancer et on va se débrouiller pour qu'elle se concrétise. Alors qu'en Europe, on va avoir une idée et là, on va l'analyser et on va réfléchir et on va se dire comment on va faire ci, comment on va faire ça.
Et vérifier nos contacts.
Et vérifier gauche, droite. Et finalement, on est épuisé. Et puis, quand on le fait, on le fait, mais pas avec le même cœur. Alors que là, en Amérique du Nord, il y a une espèce d'élan qui n'arrête pas la création. Et puis, au niveau de la production et au niveau même de l'esthétique. On ne se pose pas de questions tellement. On y va. C'est ça qu'on veut faire. Boum, on le fait.
Alors pour ça, c'est très agréable. Et on ne se pose pas d'orientation politique dans les œuvres d'art non plus, ce qu'on fait en Europe.
Oui, ce qu'on fait encore beaucoup en Europe, oui. Mais c'est parce qu'en Europe... Mais ça, je le comprends un petit peu. En Europe, les partis politiques et la politique et la vie là-bas est menée par cela parce qu'il y a toute l'histoire. Il y a toutes les guerres qui sont passées par là. Ça a été ravagé. Et ça l'est encore... J'avais écrit un projet une fois sur justement la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, on m'avait demandé d'aller dans les écoles pour en parler. Et je voyais que les enfants n'avaient aucune notion de ce que ça voulait dire. Même s'ils avaient vu ça dans leur livre d'histoire de façon très succincte. ne comprenaient pas du tout. Alors qu'en France ou qu'en Italie, enfin en Europe, quand on va dans un village, la première chose qu'on va voir au centre du village, entre l'église et le bar, ça va être un monument aux morts. Et quand on comprend ça, on comprend que les jeunes gens d'ici, d'Amérique du Nord, n'ont pas cette croyance dans ces valeurs qui font que c'était plus difficile.
Mais ils n'en ont pas l'atavisme non plus.
Non.
Ça, c'est l'envers de la médaille.
C'est l'envers de la médaille. Mais voilà, donc c'est pour ça, d'un côté ou de l'autre. Mais c'est vrai qu'en Europe, parce qu'il y a tous ces pays qui sont tout, cette proximité, cet échange constant juste dans les langues et dans la politique, tout est interrelié, surtout avec l'Europe, de la façon dont c'est fait maintenant. Je veux dire, vous ne pouvez pas aller à Paris sans rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont assis par terre ou qui... Je veux dire, la société est en recherche sociale et politique constamment. Donc, c'est sûr que quand on est créateur, on va s'en inspirer.
On va laisser un peu la littérature érotique là, oui. que vous vous exercez. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Vous semblez faire plein... Vous parlez de scénarisation pour des films que vous faites ici?
Oui, je fais de la scénarisation, je fais de la réalisation aussi, sous un autre nom. Et puis...
Au Québec?
Oui. Et
On parle de long métrage, de court métrage, on parle de quoi?
Je fais du court métrage, de la publicité, des vidéoclips pour des artistes.
Et vous êtes près du monde musical, non?
Oui.
C'est ça. Hein?
Aussi, oui, oui. Et puis, mais avant, je gérais aussi une maison de production et j'ai travaillé dans le documentaire, dans la fiction, dans la télé-réalité.
Et vous avez eu affaire avec la télévision québécoise?
Oui.
Comment ça s'est passé?
Ah, ben, comme partout, vous savez, je suis allée dans les gros festivals et puis on rencontre toutes les télés. Puis c'est pareil, on fait un pitch, on donne une idée, si ça convient.
Vous le faites encore?
Je me suis un petit peu arrêtée depuis 3 ans. Depuis 3 ans, j'ai arrêté de faire des grosses productions parce que je voulais justement me concentrer un petit peu sur l'écriture et puis me poser un petit peu, prendre le temps.
Est-ce qu'il y a des productions que vous avez faites dont on peut se souvenir, qu'on connaît?
Oui, mais si je vous l'ai dit, si je vous donne des productions, après vous allez trouver mon nom.
Et puis après.
Et puis après, c'est vrai. Non, mais non. Mais non, on reste comme ça, là, c'est rigolo.
On ne saura jamais, alors.
Ah non, mais c'est pas grave, ça. Pas grave de savoir.
Ben, je pense qu'on est curieux. On a quelqu'un devant soi qui a travaillé dans le même milieu où moi je travaille, puis je me souviens pas de vous avoir rencontré.
Ah,
je me suis dit, où est-ce que je l'ai raté?
Ah, mais vous étiez dans la radio?
Oui, mais on a quelque chose à faire aussi,
ah,
ouais, un cinéma aussi. Ouais.
Mais les nombreuses années, c'était. Je faisais des projets francophones, mais aussi beaucoup anglophones.
Ah, d'accord.
Parce que j'étais sur la côte ouest, oui.
OK.
Oui.
Et vous voulez encore? Ça vous plaît, le cinéma, les productions?
Oui, 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 ça me plaît beaucoup. C'est juste quand on a des enfants, c'est difficile d'être sur les plateaux et de faire 16 heures par jour. Surtout quand on est producteur, puis qu'on est scénariste. Écriture, c'est une vie.
On vient d'apprendre que vous avez des enfants, là.
C'est vrai, j'ai des enfants.
Vous en avez plusieurs, comme ça? 13, 14, 17?
J'en ai 18, là. Oui, alors du coup, c'est ça, ça devient trop difficile de mêler, il faut choisir.
Vous avez des jeunes enfants, adolescents?
Oui.
Jeunes ou adolescents?
Jeune adolescente.
Jeune adolescent.
Oui.
Ouais. Et ça se passe bien dans ce monde moderne des jeunes adolescentes?
Mais c'est ça, j'essaie d'être la meilleure des mamans, leur apprendre les valeurs, être féministe, leur faire passer leur donner des outils justement pour qu'elles puissent prendre leurs décisions. Mais oui, ça se passe bien jusqu'à présent. Puis elles sont aussi dans l'écriture, dans la musique, ce sont des artistes.
Qu'est-ce que vous pensez du monde de la télévision ici?
Écoutez, je pense que je ne pourrais pas trop me prononcer parce que je me suis un petit peu retirée de la production depuis 3-4 dernières années. Alors, je ne saurais trop dire, mais je sais que c'est, comme je disais un petit peu tantôt... Beaucoup de création, beaucoup de créativité.
Mais est-ce que vous suivez, je ne sais pas moi, les téléromans ou la télé-réalité ou autre chose?
Pas assez, non, pas assez.
Pas assez?
Non. Non, j'ai fait comme tout le monde, là, j'ai arrêté la télé. Et puis je suis tellement occupée que je n'ai pas le temps d'allumer l'écran, mais ou alors quand je regarde, c'est parce que c'est quelqu'un qui me dit regarde ça, c'est intéressant, ou ça va te plaire, ou j'ai un ami qui est sur une série télévisée, puis je vais regarder pour regarder, mais malheureusement, je ne suis pas trop petit écran.
Parlez-moi un peu de votre participation au monde de la musique populaire ici.
Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir?
Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous composez des chansons? Oui. Vous en chantez?
Et d'ailleurs, j'ai...
Vous avez un album?
Il y a un album qui a les... En fait, les textes
on
que
peut pas
j'écris...
savoir qui vous êtes, mais on peut acheter votre album. Ça fonctionne comme ça.
attendez. J'ai écrit des chansons érotiques.
Et un nouveau projet. Là aussi?
Ouais, j'ai écrit des chansons érotiques qui vont... En fait, il y a un recueil... Ça, je peux vous en parler. Il y a un recueil de... Je suis en train d'écrire un recueil de nouvelles et de poèmes et chansons érotiques. Et toutes les nouvelles sont habillées de musique. Et il y a aussi des chansons qui sont chansons, avec un couplet, un refrain. Et,
on se souvient des chansons
partie...
de Bilitis à l'époque. Ouais.
Pardon?
Des chansons de Bilitis à l'époque.
Oui. Ouais. Et donc, voilà. Donc, ce projet-là s'appelle La ceinture de Vénus. Et il va y avoir une lecture au Théâtre Autrement le 14 février.
Comme par hasard.
Comme par hasard. Ça n'était pas mon idée, mais je trouve que c'est quand même joli. Donc oui, on va parler d'érotisme, de sensualité, d'amour, de désir, de plaisir. Et ce seront des comédiens, notamment Marie-Ève Perron et Guillaume Tremblay, qui feront la lecture des textes.
Et vous serez sur scène ou pas?
Moi, je ne serai pas loin. Je ne serai pas loin. Il va y avoir de la musique, de la chanson. Je ne serai peut-être pas sur scène, mais on va entendre certainement ma voix, et puis il y aura de la musique, mes textes chantés, puis...
Pourquoi vous avez le mystère à ce point-là?
Oh, c'est pour faire simple, vous savez.
Oui, ça... de ça simple, vous. Oui.
Mais parce que, justement, on l'a dit, parce que je fais tellement de choses. Ce qui me plaise et ce qui fait que je peux m'épanouir en tant qu'artiste, en tant qu'auteur... Alors, j'aime bien séparer les choses. Voilà. La littérature érotique, c'est ça. Ensuite, il y a des spectacles plus mainstream. Ensuite, il y a les films. Donc, c'est bien que ce soit séparé, parce que sinon, ça devient trop compliqué, même pour moi. Moi, je sais que aujourd'hui, je suis venue vous voir, je suis IL. on parle de littérature érotique. Après, j'irai faire une entrevue sous un autre nom. Et je trouve ça très bien.
Vous fonctionnez toujours en tiroir, comme ça?
Oui. Ouais. Je crois que c'est une de mes forces parce que peut-être c'est une de mes forces parce que j'arrive à mener à bien chaque projet si j'arrive à le mettre en disant ben je suis dans un mode IL et c'est ce que je vais faire. Puis une fois que ça va être terminé, je vais claquer la porte, je vais passer à autre chose.
Ce cloisonnement là, c'est pas particulièrement européen ça.
Ah ça je sais pas, dites-moi.
Il me semble qu'on est plus entier ici, on a tendance à être plus entier un peu.
Ah oui hein. Mais en même temps, je ne trahis personne, puisque c'est
ah non,
ce sont
c'est
des facettes de moi-même.
Oui, oui. Mais il me semble qu'au niveau de la promotion de votre carrière, si on savait tout ce que vous faisiez, on pourrait peut-être
C'est ce que l'attaché de presse a dit. Ce que mon attaché de presse essaie de me dire, mais Isabelle, oups, oui, c'est sorti. Si tu faisais ça, ça serait mieux, parce que là, on saurait que aussi, et puis il y a des ramifications, etc. Mais bon, vous voyez, je me suis trahie.
Mais j'essaie encore de comprendre la motivation du secret là-dedans.
C'est pas un secret. La littérature érotique, c'est spécifique. La littérature érotique, quand quelqu'un écrit, c'est comme si c'était une artiste du cinéma porno. Il y a une espèce de fascination qui se fait autour de la personne qui va écrire des textes un petit peu chauds et... Ensuite, ben, je n'ai pas envie d'avoir des gens qui vont me dire « Ah, c'est toi qui écris ça, ah, c'est
ça. » Oui, mais regardez toute la carrière, même personnelle, qu'a fait Pauline Réage avec Histoire d'eau, Pierre-Louis avec ses textes. C'est des gens qui l'ont fait sur la place publique.
Je sais, mais c'était notre époque, notre moment.
Là, il me semble que c'était plus difficile à ce moment-là que maintenant, non?
Là, tout le monde est sur Facebook, sur le net, ici, ça. Très facile de retrouver les uns les autres. C'est très facile d'envoyer des commentaires, d'envoyer des messages à 3h du matin. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie de... Ça, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai envie de faire, et puis j'ai ma vie à moi, et puis ça ne regarde que les autres.
Quand vous allez publier, distribuer votre album de textes, de chansons érotiques et tout... on va savoir qui vous êtes ou vous allez encore cacher votre nom complet.
Ce sera Yael qui le fera. Puis si les gens qui veulent chercher, ben qu'ils cherchent. Puis si on me retrouve, on me retrouvera. C'est pas grave. Je veux dire, mais de moi-même, je préfère rester un petit peu comme ça, tranquille.
Bon, je vais essayer quand même de comprendre quelque chose.
Allez-y.
Est-ce que c'est une caractéristique féminine de cultiver le secret?
Certainement. Mais c'est secret pour qui? C'est secret pour... mes proches savent que je fais ce que je fais. Donc, moi, ce qui m'intéresse, on le disait plus tôt, mes amis, moi, j'ai ma famille, j'ai mes amis, ils savent qui je suis. Et ensuite de ça, après, on a une personnalité qui va aller vers un public. Et le public, si le public est très intéressé, il achètera les livres, il ira écouter les spectacles, il ira... un spectacle. Mais après, à part ça, moi, me vanter d'avoir fait plein d'autres choses, je sais ce que je fais, c'est pas grave. Si ça ne me gêne pas de ne pas le dire, je sais où moi j'en suis.
Est-ce que vous seriez prêt à sortir publiquement et sans anonyme, non, pas anonymement pour cette fois, sur les grands problèmes de la Terre, sur l'écologie, par exemple, les menaces de l'écologie?
Ah ben je l'ai fait et sous mon propre nom, j'ai travaillé sur des projets et on en parlait tout à fait. Ça c'est juste le Yael, c'est juste une parenthèse dans ma vie. C'est pas grave si Yael n'exprime pas ce qu'elle a à dire en écologie sous Yael, mais sous une autre facette de qui je suis, je le fais.
Qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans la société qui évolue ou qui régresse actuellement?
Ah ben moi, je pense qu'on remet sous le voile la femme. Il y a le nihilisme de la chair, le dégoût du corps, ces femmes, ces jeunes filles qui ne savent plus se présenter. Il faut se mettre à poil pour montrer qu'on est fier d'être nous-mêmes, qu'on soit grosse, qu'on soit maigre. Il faut qu'on s'expose. Ça devient insupportable. Je veux dire, les gens ne comprennent plus du tout quelle est la place du rôle du corps de la femme. Et, je veux dire, ça je l'exprime... J'exprime clairement dans mes textes aussi. Je trouve qu'il y a un recul qui s'est fait au niveau du respect de la femme, mais c'est majeur, et puis elles ne s'en rendent même pas compte. C'est ça qui est malheureux.
Les fillettes ont 11, 12 ans, 9 ans, elles sont déjà sexualisées dans leur façon de s'habiller.
C'est une honte. Bon, moi, je trouve ça affreux que ça se passe comme ça. Je trouve qu'on a reculé de 25 ans. Dans les années 70, les féministes, elles se sont battues pour qu'on ait des... pour aller... Une chose. Les gens, quand je dis que je suis féministe, je dis « Ah, oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? T'es du polo bras, gna gna gna, t'es pas contente, de quoi tu te plains, gna gna gna. » Non. C'est pas ça, être féministe. Être féministe, c'est une égalité homme-femme.
Et ça, c'est votre grande préoccupation. Développez un peu, parce que ça me fascine aussi.
Parce que moi, ça, c'est la base. C'est la base. Et je m'engueule souvent avec des femmes qui me disent « Oh, mais non, moi, je ne suis pas féministe. » Je dis « Ça veut dire quoi, tu n'es pas féministe ?» Et alors, quand tu vois... tu ne vas pas monter aux barricades quand il y a une femme qui est en train de... Écoutez, moi, j'ai... Souvent, ça m'est arrivé de m'interposer parce qu'il y a un homme qui parle à une femme de façon très, très rétrograde, très humiliante, ou peu importe. À table, chez des amis, des commentaires, des... Même au niveau de la sexualité, quand mes copines me racontent comment ça se passe, « Ah, mais là, j'ai juste fait ça parce que, bon, si je faisais plusieurs, moi, j'en avais mal à la tête, moi, j'en avais mal. » Ça suffit d'avoir un discours comme ça, c'est passéiste. Et puis surtout, oui, vous le dites, les jeunes filles qui ne comprennent plus rien.
Moi, je vous dirais que quand un homme intelligent, bien équilibré, qui sait ce qu'il veut dans la vie et qui aime la vie, a réussi à avoir une histoire d'amour avec une femme d'égal à égal, il ne reviendra plus jamais en arrière pour avoir une relation qui ne soit pas d'égal à égal.
Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. Absolument. Mais il faut que les femmes, les hommes, n'en parlons pas tout de suite là, mais il faut que les femmes, elles, prennent conscience de ce qu'elles sont et ne pas encore croire que c'est OK de vivre dans un univers patriarcal complètement passiste, comme je disais. C'est pas possible. Je suis outrée, je suis énervée, je suis en colère quand, oui, je vois des petites filles qui comprennent pas ce que ça veut dire ces relations. Moi, je lis des choses, mais tout le temps. Puis en plus, je vous l'ai dit, j'ai des enfants. Ce qui se passe dans les collèges. Mais, et là, ça va forger ce qu'elles seront en tant que femmes. Il paraît que maintenant, on fait des pipes, des enfants de 14, 13 ans font des pipes à des petits amis dans les couloirs des collèges, et on en rit. Mais c'est une honte. Je dirais, mais ça suffit. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une éducation qui se fait. Alors, qu'est-ce que c'était l'éducation ? Alors, l'éducation, c'est de dire, c'est pas grave les enfants, si vous faites quoi que ce soit, il y a des condoms, mettez des condoms. La porno sur toutes les plateformes, ça a complètement miné toutes les valeurs relationnelles entre ces jeunes gens qui vont devenir des adultes et qui vont être complètement bousillés.
Venant de vous, ça prend tout son poids. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va vous appeler I, L, I point, L point. Mais moi, je les vois, les autres noms, mais je ne les dirai pas. Merci beaucoup.
Merci pour votre écoute.
Si ça vous dit, il y aura une prochaine aventure dans une semaine. À la mise en onde, Jean-Sébastien, La Liberté. Bonne semaine.